Ce matin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le dernier verset de ce chapitre, le verset 31. Genèse, chapitre 1er, verset 31. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Les premières paroles de la Bible s'écoulent au rythme d'une sorte de leitmotiv, et il y eut un soir, il y eut un matin. Une lecture attentive du récit de la Genèse permet de remarquer qu'il ne s'agit probablement pas d'une succession chronologique d'un temps cyclique, mais d'une sorte de progression linéaire où des éléments vont retrouver leur place. Le premier jour de la création, Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, dit le verset premier, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais puisque le soleil n'apparaît qu'au quatrième jour, certains se demandent si les jours de la création sont de 24 heures, s'il s'agit, comme dans d'autres passages de la Bible qui nous parlent du jour de l'Éternel, du jour du salut, ce ne serait pas des jours d'une durée qu'il est difficile à nos montres à quartz de marquer avec les secondes. Est-ce que les jours de la création sont de ce genre ou d'un autre genre? En fait, au niveau scientifique, la Terre a pris un grand coup de vieux dans la seconde moitié du siècle passé, alors qu'à la fin du 19e siècle, les scientifiques ne donnaient à notre Terre que quelques millions d'années. La moitié du 20e siècle a fixé son âge à 4,37 milliards, je regarde bien, d'années. J'aime bien la virgule qui nous donne les précisions en milliards. Mais en fait, peu importe que cela se soit passé il y a 4000 ans ou 4 milliards d'années, certains croyants dont je fais partie n'en démordent pas du fait que c'est Dieu qui a créé la terre. Et avec son « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », la Bible ne fixe pas plus l'ancienneté de l'univers que la durée des jours du récit de la création. À quoi correspond ce commencement dont parle la Bible ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Certains hébraïsants remarquent que ce verset, le premier verset de la Bible, peut se lire « Au commencement, Dieu avait créé les cieux ». C'est la version juive, celle du rabbinat, qui traduit ce verset de cette manière. Puis aussi, on peut se demander pourquoi Dieu a créé une terre informe et vide. Si Dieu crée quelque chose, pourquoi créer, non pas le néant, mais quelque chose qui n'a pas de forme et qui, de plus, selon le premier verset de la Genèse, est couverte ou remplie par les ténèbres? Pour des raisons que nous ne pouvons aborder ici, certains commentateurs placent entre le premier et le deuxième verset de la Bible une immense période probablement compatible avec ces temps géologiques nécessaires à la formation des roches et probablement à d'autres choses. Quoi qu'il en soit, la Bible n'en dit pas plus sur ce qui s'est passé, parce qu'elle n'est pas un traité de géologie ou un manuel de chimie. Elle résume tout ce qui s'est passé pour la création de l'univers et du monde par ce premier mot par lequel commence la Bible, « Au commencement, Dieu créa ». quoi qu'il en soit, j'imagine quand même que ça a dû être un grand travail, même pour le créateur de l'univers, de créer tous les animaux de la planète en un seul jour. C'est ce qu'il a fait le dernier jour de la création, nous dit la Bible. Savez-vous que de nos jours, on n'est pas encore fixé sur le nombre d'animaux, le nombre d'espèces animales. On en dénombre 1 800 000. Et il paraît qu'on en découvre encore de nos jours. On en découvre des milliers d'espèces nouvelles. Et en fait, personne, même de nos jours, ne peut définir avec précision le nombre d'espèces animales vivant sur Terre. Moi, je me suis toujours demandé, mais combien de temps Dieu avait pu mettre pour créer tous ces animaux quand nous, avec toute notre science, nous avons du mal à en dénombrer le nombre d'espèces. Parce que même pour Dieu, c'est quand même du travail. Même en commençant de bonne heure le matin, j'imagine qu'en début de l'après-midi, celui qui ne sommeille ni ne dort était toujours en train de créer les animaux, tant il y en avait, et tant il y en a encore de nos jours. Et comme la création de l'homme arrive en dernier, eh bien, je me suis dit que c'est probablement en fin de journée que Dieu a attaqué la création d'Adam. Ah, la fin de la journée. Non pas la fin du travail, mais vous savez, cette période de la journée où on sent le soleil qui commence à décliner. On sent que bientôt la journée va se terminer. La fin de la journée, c'est pas seulement le meilleur moment de la journée pour les travailleurs qui rentrent chez eux. C'est surtout la meilleure heure pour les artistes. Parce que c'est là, lorsque le soleil commence à baisser, que le jour commence à se terminer, que la lumière est la meilleure. La fin de la journée, quand il fait chaud, c'est d'abord la fin de la chaleur. C'est un moment privilégié où l'on remarque le paysage qui se pare de ses plus belles couleurs, de ses plus belles tonalités chromatiques. Dans la forêt, dans la nature, lorsque le soleil est au zénith, dans un ciel sans nuages, mais tout est écrasé par la lumière. Tandis que quand le soleil commence à se coucher, alors là, c'est l'heure pour les peintres, pour les photographes, où l'on a la meilleure lumière, où l'on peut voir les formes, les couleurs. Lorsque le soleil commence à renoncer à sa puissance en se courbant pour rejoindre l'horizon, alors le paysage prend un éclat magnifique, sans cesse changeant au gré de la course du soleil. Il y a quelque chose d'extraordinaire. La fin de la journée, c'est également la période où l'obscurité cherche à gagner sur les ténèbres, jusque dans ses moindres recoins, et à force de décroître graduellement la lumière du soleil finit par laisser place à l'obscurité. Tout cela pour essayer de comprendre cette première nuit qu'a dû passer Adam. Il était plongé d'un seul coup dans l'obscurité. Il a vu le jour, Adam, alors que l'obscurité arrivait, alors que la nuit s'installait. Il paraît qu'un bébé né la nuit dort le jour et pleure la nuit. C'est pas agréable, un bébé qui pleure la nuit, parce que les parents ont besoin et ont envie de dormir. Mais imaginez Adam qui a été créé en fin de journée. et qui se retrouve dans l'obscurité. Mais qui nous racontera l'effroi de la première nuit d'Adam en voyant les ténèbres s'épaissir de plus en plus autour de lui? Qui nous dépeindra, qui nous racontera ses peurs, ses pleurs et ses frayeurs? Graduellement, la fraîcheur nocturne avait fait place à la douce chaleur du jour. D'une belle journée ensoleillée, on était passé à l'obscurité la plus totale. Mais quel sein maternel pouvait réchauffer le petit Adam? Quel bras pouvait le bercer pour le calmer? Au contraire, ce n'était que des ombres confuses qui s'agitaient autour de lui, avec des formes de plus en plus démesurées, des cris d'animaux inconnus qui résonnaient dans le lointain. N'avez-vous jamais remarqué de quelle manière les bébés qui viennent au monde sont mal accueillis à leur naissance? En entrant dans le monde, dans notre monde, ils doivent se débrouiller tout seuls pour prendre leur première respiration, leur premier souffle. Arrivant brutalement dans leur poumon, eh bien, ce premier souffle, cette première respiration leur arrache leur premier cri. Et le pire, c'est que s'ils ne crient pas, alors là, ça se passe mal pour eux. On m'a raconté, mais est-ce que c'est vrai? On les prend par les pieds et une bonne tape sur le derrière pour les faire crier, n'en déplaise aux âmes sensibles, et puis aux bébés qui sont concernés. Eh bien, en une seule nuit, le petit Adam a dû apprendre tout seul les choses de la vie. Cependant, nous ne voyons pas dans le récit que la Genèse fait de la première nuit d'Adam qu'il eut peur, non? En fait, Adam avait probablement peur tout en n'ayant pas peur. Il découvrait un environnement perturbant, le noir, le froid, la solitude, les bruits, les ombres. Mais il ressentait également un environnement réconfortant, rassurant, celui de Dieu, de la présence de Dieu. Parce que si la nuit régnait sur le paradis de Dieu, ça ne voulait pas dire pour autant que Dieu n'était pas présent dans le paradis. Non, il n'était pas absent plutôt, il était présent. Et ce n'était pas parce qu'il faisait jour que Dieu était plus présent. Dieu était présent dans le paradis, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Dieu était tout le temps présent. En fait, la nuit, pour Adam, Dieu était présent, même si les yeux d'Adam ne le voyaient pas. Et ce qui faisait la présence de Dieu, ce n'était pas que les yeux d'Adam le voient. C'était que le paradis, c'était là où Dieu était là. Point final. Paradis, c'était le domaine de Dieu. Et puis que Adam le voit ou ne le voit pas, c'est pas ça qui faisait que Dieu était plus ou moins présent. L'un des problèmes du paradis, c'est quand même... du paradis de la Genèse, c'est quand même qu'on y voit Satan s'y manifester sous la forme d'un serpent. Comment, si Dieu était dans le paradis, comment se peut-il que le mal, que le serpent puisse côtoyer le bien? Comment Satan peut-il être présent dans la présence du Dieu trois fois saint? Si je comprends bien ce que dit la Bible, le calme d'Adam en cette première nuit de sa vie était non le calme vécu dans une situation paisible, tranquille, confortante, mais c'était le calme apporté, comme dit l'Évangile, par cette lumière qui brille dans les ténèbres, c'est ce calme au milieu de la tempête. Le calme dans l'adversité. La nuit d'Adam était peut-être La première nuit d'Adam était peut-être parsemée de bruits, de cris, de peur ou de terreur. Mais il y avait aussi une présence réconfortante qui était bien plus importante pour Adam. Eh bien, me semble-t-il, c'est ce genre de vie d'Adam dans le paradis de la jeunesse qui est venu nous proposer Jésus. Ce qu'il nous propose de vivre, c'est cet évangile qui est une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est d'éprouver la joie au travers des larmes. C'est d'éprouver le calme au lieu de la tempête, parce que la vie ici-bas sur terre est une vie où nous avons à lutter contre toutes sortes d'éléments qui nous dépassent. Mais l'amour de Dieu, qui est capable de s'emparer de notre vie, cet amour se vit dans un monde qui est ravagé par la haine, par l'égoïsme. La paix qu'il verse dans nos cœurs, elle s'éprouve, elle s'expérimente dans un monde qui est ravagé par les larmes, qui est dévasté par la haine, tout comme la vie qu'il nous propose s'expérimente dans un monde où règne la mort. Voilà le genre de vie que Dieu nous propose par son évangile. En fait, Adam n'a pas été créé pour vivre la nuit. Lorsque Dieu eut fini de créer les animaux, puis l'homme, il y eut un soir, il y eut un matin, nous dit la Bible. Mais Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il vive tout le temps dans la nuit. Je me suis également demandé ce qu'avait pu ressentir Adam quand le jour avait commencé de se lever sur le paradis. Et pourquoi Dieu avait fait commencer la vie d'Adam par le plus dur, par la nuit, par le plus froid, par le plus obscur. Il me semble que Dieu commence bien des choses de cette manière. Voyez par exemple à Cana. Le vin qui est épuisé va être remplacé par un vin bien meilleur. Le vin que Jésus va créer. Voyez le serpent du paradis de la Genèse. S'il est présent dans le paradis de la Genèse, il n'est plus présent dans le paradis, le nouveau paradis, celui de l'Apocalypse, celui que nous attendons. Et en fait, il semble que ce soit une constante dans ce que Dieu fait. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on a reçu cette lumière de Dieu dans notre vie, cette paix, cette joie de Dieu, eh bien, le meilleur de notre vie est encore à venir. Le meilleur de notre vie est toujours devant nous. Et c'est là, voyez-vous, ce que je retire de ce passage, c'est que si la vie d'Adam a commencé par la nuit, elle a débouché sur le jour. Imaginez un instant la première matinée du tout jeune Adam. Même au paradis de la Genèse, mais le jour n'arrive pas instantanément. Les étoiles qui luisaient çà et là dans la voûte ténébreuse des cieux se sont éteintes progressivement et graduellement. Le contour des collines voisines s'est dessiné à l'horizon. Au fur et à mesure, on a vu une sorte de lueur, une lueur de feu embraser le ciel. Petit à petit, la vie a commencé à reprendre forme, couleur. Le soleil n'était pas encore levé. Et déjà, les premiers oiseaux se mettaient à chanter pour saluer sa prochaine levée. C'est bizarre, ça, que les oiseaux chantent avant que le soleil se lève. Mais il salue à l'avance la venue du soleil. Adam n'avait jamais vu le soleil se lever sur le paradis. Que savait-il de Dieu ? L'avait-il vu avant que la nuit tombe ? Savait-il ? Avait-il vu ? Avait-il compris que c'était Dieu ? Que connaissait-il du paradis, de ses beautés, de ses richesses ? Il avait vu un petit peu de quelque chose avant que la nuit tombe. Il avait, après, sombré dans le sommeil. Il avait entendu la voix de Dieu qui lui parlait, être remplacé par des cris d'animaux nocturnes, par les craquements de la nature. Mais maintenant que le jour se levait, Adam vivait le contraire de tout ce qu'il avait vécu depuis sa naissance, depuis que la nuit était tombée. Quel spectacle pour Adam ! Lorsque le soleil s'est levé sur son premier matin, le premier matin de sa vie. Certains pensent que le petit Adam ne dormait pas encore lorsque les premiers rayons du soleil se posèrent pour réchauffer le paradis. Il ne dormait pas parce qu'il n'avait pas envie de dormir. Il était né la nuit, donc il n'avait pas envie de dormir. Non, non. Et puis il sentait les premiers rayons du soleil qui le réchauffaient. Il ne dormait pas parce qu'il avait été dérangé par tous les bruits un peu bizarres de la forêt, par le froid, par la solitude. C'est pourquoi Adam vit de ses yeux le soleil se lever. Vous savez, le lever comme le soleil, comme le coucher du soleil, c'est le seul moment de la journée où un homme peut regarder le soleil en face. Oh, pas très longtemps. Mais quand il commence à sortir de l'horizon, on peut encore le regarder. De même, lorsqu'il se couche. Après, lorsqu'il est dans la force de son éclat, on risque de devenir aveugle si on regarde le Seigneur, si on regarde le soleil en face. Mais en voyant le soleil se lever ce matin-là, Adam vit la puissance, la force de la lumière combattre la puissance des ténèbres. Et il vit le soleil triomphant, le soleil rayonnant, annoncer à toute la création que l'aube d'un jour nouveau était venue. Et Adam vit les ténèbres retourner dans leur lieu. Tout maintenant était éclairé. Eh bien, mes frères, mes sœurs, le jour vient, il n'est pas loin. Il n'est pas très loin de nous, où nous serons quelques-uns, sinon plusieurs, à vivre d'une autre manière ce que le premier Adam a vécu en ce matin de sa vie. Dans une période que la Bible appelle non pas la fin du monde, mais la fin des temps. Période marquée par la recrudescence du péché, l'accroissement de l'iniquité, par la montée de la peur, de la terreur, d'une humanité vivant dans les ténèbres, par des bruits de guerre, par des guerres, par des tremblements de terre, par des famines. Voilà ce qui va caractériser cette époque. Quelques croyants restés fidèles à leur Seigneur verront de leurs yeux se lever l'aube d'un jour nouveau. Alors ils le verront à l'œil nu. Celui dont nul œil ne peut soutenir le regard quand il apparaît dans sa force et sa puissance, tant celui qui va venir resplendit de justice, de gloire et de sainteté. Oui, ils le verront, venant sur les nuées des cieux, celui qui est l'objet de l'amour de leur vie, celui qui les a tant aimés au point de donner sa vie pour le pardon de leurs péchés. Ils le verront. Ils leur verront de leur vivant comme je vous vois, comme vous me voyez, comme l'ont vu ceux qui étaient en Palestine il y a 2000 ans. Oui, mon frère, tu le verras. Et cette vision transformera ta vie. En un instant, en un clin d'œil, tu seras transformé. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et les croyants restés vivants seront changés. En un instant, en un clin d'œil, tu seras enlevé, tu partiras à la rencontre de celui qui t'a préparé une place dans cet autre paradis, là où le meilleur de ta vie est encore à vivre. D'autres pensent qu'Adam s'était enfin endormi, vaincu par la fatigue. Adam ne savait pas ce que c'était le sommeil. C'était sa première nuit. Il n'avait jamais dormi de sa vie. Bon, il n'avait pas eu peur de s'endormir, car même s'il ne le voyait pas, il sentait que Dieu était là. Dieu était présent à ses côtés. Alors Adam avait commencé par sentir une sorte de grande lassitude envahir ses membres. Les perceptions de ses sens avaient commencé par décliner. Il avait éprouvé le besoin de s'allonger le plus confortablement possible, à même la poussière de cette terre d'où Dieu l'avait retiré quelque temps auparavant. Et puis le rythme de ses pensées s'était ralenti. Bientôt, c'était arrêté. Ses paupières, qui devenaient lourdes, étaient devenues pesantes, et puis finalement, c'était fermé. Sa respiration, progressivement, s'était ralentie. En fait, Adam n'avait pas eu conscience du moment où il s'était endormi. Comme Adam, s'endormant lors de sa première nuit dans la poussière de la terre, combien de croyants ont pris ou prendront la direction de ce petit sentier qui conduit de l'autre côté du mur, de l'autre côté du miroir. Alors, quand ce sera ton tour, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de courber les chines. Quand ton tour viendra, n'aie pas peur de passer par cette petite porte d'où l'on ne revient jamais, à moins de s'appeler Jésus-Christ ou d'être un de ses fidèles disciples, un disciple de celui qui a dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Je suis la résurrection et la vie. » Alors, n'aie pas peur parce que, même si tu ne le vois pas, il est à tes côtés. N'aie pas peur parce que, si les ténèbres règnent sur une terre remplie d'angoisse et d'opprobre, le jour vient où le peuple qui marche dans les ténèbres de la mort voit se lever une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Bientôt la lumière d'en haut resplendit. Alors, mon frère, comme Adam, après sa première nuit, tes yeux s'ouvriront sur une autre réalité. Lorsqu'après t'être endormi de ton dernier sommeil, après avoir pris une dernière fois ta respiration, tu te réveilleras à l'aube du septième jour, à l'aube du grand repos de Dieu, à la lumière de celui qui est assis sur le trône éternel, le trône d'en haut. Alors tout reprendra forme, vie, couleur, tout revivra selon la volonté du Seigneur. Et enfin, tu le verras de tes yeux, de tes nouveaux yeux, celui que jusqu'à présent tu n'as vu que par la foi, celui que jusqu'à présent tu n'as que ressenti plus ou moins confusément la présence. Tu le verras, il sera là devant toi. Alors chagrin, angoisse, alarme, terreur s'évanouiront dans sa sainte présence, que ce soit de ton vivant ou en passant par la mort. Quel changement pour toi, mon frère, ma sœur, lorsque tu verras toi aussi se lever sur ta vie l'aube de ce jour nouveau où toutes choses seront devenues nouvelles. Quelle joie quand tu verras descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quelle joie quand tu entendras de tes oreilles cette voix sortant du trône de Dieu, disant à la multitude des rachetés de l'agneau dont tu feras partie, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Maintenant, le Seigneur habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle joie quand tu entendras de tes oreilles celui qui est assis sur le trône dire « Voici, maintenant j'ai fait toutes choses nouvelles ». Quelle joie, mes frères et sœurs, lorsque rassemblés devant le trône de l'agneau, avec toutes les familles de la terre enfin réunies dans un même langage dont les langues nouvelles de la Pentecôte ne sont qu'un avant-goût, quelle joie d'être accueillis par ces mots. Cela va bien, mon enfant, entre maintenant dans la joie de ton maître. Quel changement ce sera pour toi quand enfin, revêtu de ton corps nouveau, soit après avoir vu de tes yeux celui qui doit revenir et que nous attendons sur les nuées, soit après avoir brisé le cycle de la mort et du tombeau, quelle joie ce sera quand tu t'approcheras du trône de l'agneau dans la cité céleste. Et le plus extraordinaire, c'est que si dans le paradis de la Genèse, ce chapitre est rythmé par « il y eut un soir, il y eut un matin » qui rythme notre vie à nous, la nuit, le jour, le temps, dans le paradis, il n'y aura plus de soir. Ce sera l'éternité. La mort, la tristesse, cette nuit qui a été celle d'Adam, non, n'existera plus. Ton premier jour dans le paradis ne s'achèvera pas par une nuit, mais c'est un jour qui ne s'achèvera jamais. Dans le nouveau paradis, dit l'exilé de Patmos dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de lampe, plus de lumière. La nuit ne sera plus, les ténèbres ne seront plus, parce que le Seigneur lui-même l'éclairera de sa présence. Et ce matin-là, enfin, les ténèbres, la puissance des ténèbres et tout ce qui leur appartient sera définitivement vaincu. La nuit ne sera plus. Alors, mon frère, ma sœur, ne retiens qu'une chose dans ta vie, qu'une seule chose, c'est que chaque jour qui passe te rapproche non du malheur, mais du bonheur éternel. Amen. Chaque jour qui passe te rapproche d'un corps sur lequel la douleur, la maladie et la mort ne régneront plus. Amen. Ah, c'est ce que je me dis. Les jours où ça va mal. Imaginez un corps qui ne souffrira plus, sans médicaments, sans... Enfin, quelle bénédiction, quel bonheur. Chaque jour qui passe nous rapproche du moment où les peurs, les terreurs, où tout ce qui fait la une de nos journaux, de nos jours, n'existera plus. Tout cela aura disparu. Chaque jour qui passe, mes frères et sœurs, nous rapproche du matin d'une vie nouvelle qui va bientôt se lever. Courage, le meilleur de notre vie arrive. Il est encore devant nous. Il est à vivre avec le Seigneur qui revient bientôt. C'est là le message de la Bible. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que si les ténèbres sont sur cette terre et s'ils arrivent parfois dans notre cœur et dans notre âme, Nous savons, Seigneur, que tu nous as préparé une place, là où les pleurs ne sont plus, là où la douleur n'est plus, là où ta vie règne. Que ta grâce, que ton amour, que ta paix nous fasse vivre ce jour éternel. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.